Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagémo à voix haute, épisode du 16 février 2025. Aujourd'hui, en seconde partie d'émission, dans les coulisses du livre, je reçois Enzo Laure Mariano, illustrateur et musicien. Mélissa Durand de la librairie Monet présente ses coups de cœur de libraire, des livres qui sortent de l'ordinaire. Et on terminera avec quelques événements littéraires qui se vivent tout près de chez vous ou un peu plus loin avec les actualités littéraires. Mais d'abord, en première partie, dans le segment « Dis-moi ce que tu lis », je reçois plusieurs invités autour des lauréats du grand jeu de lecture à voix haute du Salon du Livre de Montréal, Léon Racine et Léon Trudeau-Ferrin, et donc les lauréats eux-mêmes. Et encore une fois, vraiment tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature jeunesse. Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui œuvrent tout autour de la littérature jeunesse et des enfants qui la lisent. Tantôt, on va accueillir avec grand plaisir les lauréats du grand jeu de lecture à voix haute du Salon du Livre de Montréal, qui a eu lieu le 27 novembre dernier. Léon Racine, qui est en cinquième année à l'École Saint-Pierre-Claver, et Léon Trudeau-Ferrin, qui est en sixième année à l'École des petits chanteurs du Mont-Royal. Nos deux lauréats sont accompagnés de leur enseignante et ou d'un de leurs parents. On vous présentera tout ce beau monde tout à l'heure, mais d'abord, à tout seigneur, tout honneur, on va donner la parole à Olivier Goujon, directeur du Salon du Livre de Montréal. Bonjour, Olivier.
Bonjour, Marie. Bonjour, Léon et Léon.
Bon, re-bienvenue, Olivier, à Imagez-moi à voix haute. On va prendre quelques minutes avec vous en débutant. Moi, j'aimerais que vous nous parliez de ce projet. Qu'est-ce que c'est que ce grand jeu de la lecture à voix haute au Salon du Livre de Montréal? À qui ça s'adresse? Quand ça a eu lieu? Dans quel contexte?
Ben, merci beaucoup de me donner cette occasion d'en parler parce qu'effectivement, c'est un projet qui nous tient très à cœur. C'était en novembre dernier, la troisième édition de ce grand jeu de lecture à voix haute. Le Salon du Livre de Montréal s'adresse à tout le monde, de 0 à 100 ans, mais c'est sûr qu'on a une inclinaison particulière envers les jeunes élèves du primaire et du secondaire qui viennent au Salon du Livre de Montréal à chaque année. On en accueille 20 000.
C'est beaucoup.
C'est fou et c'est on aimerait que ce soit encore plus. On est obligé de refuser des classes. C'est un moment unique. Et pour tout Montréalais ou Montréalaise qui l'a connu, c'est un moment grandiose que de pouvoir aller comme ça dans ces allées où découvrir des livres. Et on cherchait, avec la présidente de l'époque, Gilda Routy, la présidente du conseil d'administration, une activité en collaboration avec le Centre de services scolaires de Montréal, qui est donc un centre de services scolaires essentiel sur le territoire de Montréal. Et grâce à la créativité, à l'énergie, à l'implication de personnes extraordinaires, on a lancé le grand jeu de lecture à voix haute, qui est un projet qui est destiné aux élèves de 5e et 6e année du primaire. On a commencé juste avec la cinquième année. On a ajouté la sixième il y a 2 ans. Et le but, c'est de valoriser, de mettre la lecture de l'avant à travers le plaisir de lire à voix haute. Lire, c'est un acte intime. Lire à voix haute, c'est un acte de partage. Ça permet de créer quelque chose d'extraordinaire. Et ça avait été éprouvé déjà avec une initiative d'un organisme qui s'appelle « Lis avec moi ».
Oui, tout à fait. Qui propose ça pour les élèves du deuxième cycle.
Exactement.
Troisième et quatrième année.
Et donc, Gilda Routy, je tiens à le dire, a été la grande marraine. Elle était au conseil d'administration et elle a initié ce projet en collaboration avec deux bibliothécaires extraordinaires du Centre de services scolaires de Montréal, Brigitte Boiteau et Cheriaf Radia. Et ce sont des personnes qui se sont vraiment données pour que ce projet-là voit le jour. Et nous l'avons l'accueillons entre nos murs pendant l'événement. On accueille donc des classes, une dizaine de classes qui viennent présenter une lecture. Mais et je vais laisser le soin aux enseignantes de raconter comment ça se passe dans les écoles. Mais il y a tout un travail préparatoire qui est fondamental. Ouais. Et ce qui nous ravit au Salon du Livre de Montréal, c'est de pouvoir avoir ce moment unique où on sent s'exprimer les jeunes, évidemment, qui lisent, mais aussi leurs parents, les élèves de la classe. Tout le monde est là pour assister à ce moment. Et il y a une énergie extraordinaire qui
formidable.
Se dégage.
C'est vraiment formidable.
Je veux juste remercier toutes les personnes qui s'impliquent. Je veux vraiment remercier les membres du jury de faire en sorte que ce projet-là existe. Sophie Fauché, Alexandrine Foulon, Jacques Goldstein, Ariane Saint-André, évidemment Brigitte Boiteau, Geneviève Bergeron-Collin et Julien Leclerc qui s'implique au conseil comme conseiller pédagogique. Vraiment un grand merci. Puis bravo à tous les jeunes qui ont lu. Bravo d'avoir participé. Merci aux enseignantes qui nous écoutent. Merci aux enseignantes qui sont ici avec nous. Et félicitations aux lauréats, aux Léons.
Les deux Léons.
Voilà, aux deux Léons. Donc, merci.
Merci, Olivier. Alors maintenant, on reçoit l'un des deux grands lecteurs de l'édition 2024 du Grand Jeu de lecture à voix haute, Léon Racine. Bonjour, Léon.
Allô.
Félicitations, d'abord.
Merci beaucoup.
Léon, tu es accompagné de l'enseignante de ta classe de cinquième année à l'école Saint-Pierre-Claver, Hélène Moreau. Bonjour, Hélène.
Bonjour.
Et on salue ta mère, Julie Dufresne, qui est en régie avec Mathieu. Bonjour, Julie. Alors, dis-moi, Léon, comment ça a commencé pour toi, ce grand jeu? Par quelles étapes es-tu passé?
Donc, tout a commencé dans notre classe quand notre prof nous avait annoncé qu'il allait avoir un défi et tout.
Ouais.
Puis après, comme au début novembre, je crois, ou fin septembre, on arrivait avec notre livre sur une période de 3 jours. On lisait dans notre classe un extrait.
Ouais.
Et tout le monde autour votait sur une note de 35 maximum.
Pour savoir qui représenterait la classe.
Ouais. En fait, il y avait comme 7 catégories, avec un maximum de 5, donc une note totale de 35 au maximum.
Ouais.
Après, on avait fait le décompte. Moi, j'avais un peu participé, sauf qu'après, ma prof avait trouvé une autre méthode
plus
pratique.
Ouais.
Après, elle a annoncé le gagnant.
Et c'était toi?
Oui.
OK. Puis après ça, comment ça s'est passé?
Je suis pratiquée chez moi un peu.
Puis t'es passée à un autre niveau. L'étape suivante, c'était plusieurs grands lecteurs représentant de plusieurs classes. Puis après ça, t'as encore gagné. Puis après ça, t'es rendue au Salon du Livre. C'est ça?
Non, en fait, il y avait seulement 2 classes qui participaient dans notre école.
Oui.
Donc, j'ai pas affronté d'autres classes de mon école, donc il y avait seulement 2 étapes, ma classe et le grand jeu au salon.
OK, d'accord. Et t'es passé donc de la classe au grand jeu au salon. C'est super. Hélène, comment vous avez entendu parler de ce défi de lecture à voix haute? Pourquoi vous avez voulu y participer?
Le défi de lecture à voix haute était annoncé dans la programmation culturelle du Centre de services de Montréal. Puis j'ai eu l'occasion de parler avec Radia, une des bibliothécaires aussi, qui était en charge du projet. Donc, par son intermédiaire, on s'est inscrit. L'an passé, j'étais au 2e cycle, puis j'avais participé au défi « Lis avec moi ». Puis ça avait suscité beaucoup d'engouement auprès des élèves. Puis je trouve que c'est une belle activité qu'encourage la lecture, de partager nos coups de cœur, de découvrir des auteurs. Donc j'ai dit, je me suis dit, cette année, on va encore y participer. Puis j'ai quand même validé auprès de mes élèves s'ils étaient disposés à le faire, parce ça part d'eux.
Oui, toujours.
Puis la beauté de la chose en participant à cette activité, c'est qu'on peut aussi profiter du Salon du Livre, qui était une belle occasion de faire découvrir d'autres choses aux élèves autour de la lecture. Donc c'est ça, c'est vraiment un beau défi. Ça permet de promouvoir la lecture, de découvrir de nouveaux livres, des auteurs. Puis les élèves ont vraiment aimé ça. Puis ils sont déjà prêts à participer l'an prochain.
Ah, c'est génial.
On a hâte.
C'est génial. Léon, on a un extrait audio de ta lecture au salon. Donc ça s'est passé le 27 novembre dernier. Moi, j'aimerais bien qu'on écoute ça avec les auditeurs et les auditrices. On entend le tout début de ta présentation avec Gilda Routy, qu'on a mentionné tantôt, et qui animait le grand jeu au Salon du Livre. On écoute.
Que tu vas nous lire?
Je vais
vais vous lire un livre intitulé...
Ah, tu vas pas nous lire tout le livre.
Non.
Un extrait.
Oui, un extrait, désolé. Un extrait d'un livre intitulé « Le monstre du bassin d'Arcachon ». Ce livre a été écrit par Sophie Marvaux et illustré par Piu Piu. J'ai choisi ce livre parce que ça me rappelle quand je suis allée en France avec ma famille. Donc, l'extrait débute quand Charlie, un jeune enfant de 12 ans, s'en va en vacances avec sa grand-mère qui s'ennuyait tellement à la retraite.
Elle a raison, la grand-mère s'ennuyait, vas-y.
Donc elle a voulu devenir détective privée. Donc ils sont en rencontre avec un ostréiculteur au nom de Paul Laperle, car il soupçonne le bassin d'Arcachon d'habiter un monstre. Bonne écoute.
Attends. Est-ce qu'un ostréiculteur, tu pourrais leur expliquer? Parce qu'il y en a qui ont ouvert des grands yeux et ils savent peut-être pas ce que c'est.
Donc un ostréiculteur, c'est un monsieur qui gère des huîtres en fait. Il les laisse tremper, il les nettoie et tout. C'est ce genre. Bien.
Vas-y.
Bonne écoute. Nous nous installons autour de la table. Mamisa ne m'oublie pas d'ouvrir son calepin et de choisir la couleur de son stylo.
J'ai inventé une méthode d'enquête, m'explique-t-elle. Je vais écrire les paroles des témoins en bleu, les fins indubitables en noir, nos questions en rouge et nos réponses en vert.
Paul Laperle nous rejoint. Il a trop dit sa tenue d'ostréiculteur, contre un jean, une chemise et un grand tablier. Il a porté trois grands assiettes d'huîtres, un citron, du pain, du beurre, du pâté, une bouteille de vin blanc et une grande carafe d'eau. Je commence par le pâté, je continue par le pâté et je suis presque certain de terminer par le pâté. Quand notre hôte m'interpelle, tu n'as jamais mangé d'huître, Charlie ? Non, en effet. N'aie pas peur, elles ne vont pas te manger. Fais comme moi. Armé de sa fourchette, il détache l'huître de sa coquille et l'avale. Délicatement, je prends une huître entre mes doigts. Je contemple avec méfiance la bestiole très verte qui se prélasse à l'intérieur d'un cri. On dirait un oreiller bien gonflé dans une baignoire de luxe cachée dans un rocher.
Tu ne dois pas rater ça, Charlie, insiste Mamisa. C'est extra et très bon pour la santé.
J'ouvre la bouche et ferme les yeux. Le goût ne ressemble à rien que je connaisse, mais ça sent l'océan et les vacances.
Wow, Léon, quelle performance! D'abord, tu prends des voix différentes, ta diction est impeccable, tu donnes des intonations, ça donne envie de t'écouter encore et encore. Félicitations, encore une fois.
Merci.
Et pourquoi tu avais choisi ce livre-là, en particulier ce livre-là qui était « Le monstre du bassin d'Arcachon » de Sophie Marvaux, qui est édité aux éditions du Sud-Ouest. Pourquoi ce livre-là en particulier?
J'ai choisi ce livre parce que ça me rappelle mes vacances en France avec ma famille. On l'avait acheté dans un Leclerc.
Ah oui?
Dans une région proche d'Arcachon.
Ah oui?
Et après, on est allé à Arcachon.
Puis est-ce que tu as mangé des huîtres?
Oui, j'aime beaucoup les huîtres. C'est très bon.
T'adores ça, toi. Écoute, quel conseil tu donnerais, toi, à un prochain ou une prochaine participant pour bien s'y préparer?
Déjà, il faut de l'enthousiasme. Car ça aide vraiment quand tu es enthousiaste, le monde à côté de toi sent enthousiaste. Et après, quand le monde sent enthousiaste, ils sont contents. Et quand le monde sont content, tu es content. Et quand tu es content, ça aide à ne pas être stressé.
Ouais.
Et ne pas être stressé, c'est bien.
C'est la solution.
Oui.
C'est la bonne façon. Et tu t'y étais bien préparé. Je te remercie, Léon Racine. Merci, Hélène Moreau. Merci, Olivier.
Merci, Marie. Quelle leçon de vie.
Quelle leçon de vie. Bonne fin de cinquième année. Bonne prochaine lecture.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous.
On est maintenant avec Léon Trudeau-Ferrin, le lauréat de sixième année du Grand Jeu de lecture à voix haute du Salon du livre de Montréal. Bonjour, Léon.
Bonjour.
Et félicitations. Et à distance, mais bien présente, on a avec nous Cécile Pierrard, l'enseignante de ta classe à l'École des petits chanteurs du Mont-Royal. Bonjour, Cécile.
Bonjour.
Très heureuse de vous accueillir. Et en studio, on accueille aussi ta mère, Léon, Véronique Bossé. Bonjour à vous.
Bonjour.
Léon, explique-nous ce que tu as préféré, toi, dans cette expérience du grand jeu de lecture à voix haute.
Alors, je pense que ce que j'ai préféré, c'est vraiment présenter au Salon du livre, parce que j'ai pu voir que mes amis me soutenaient.
Ah oui.
Puis J'avais vraiment envie de faire découvrir ce livre-là à d'autres personnes.
Ah oui, d'accord. Ça, c'est intéressant. Cécile, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à inscrire votre classe à ce projet? Quels intérêts ou quel intérêt y voyez-vous?
Alors moi, j'avais découvert il y a quelques années l'association Lis avec moi qui organise ce concours-là pour le deuxième cycle.
Oui.
Et j'avais mené des recherches justement pour le troisième cycle parce que je trouvais que c'était super intéressant. Donc ça m'a amené à inscrire les élèves. L'intérêt que j'y vois, au-delà de faire découvrir la littérature et de tous les avantages que ça a sur la vie des élèves et en tant que citoyen, c'est de créer une communauté de lecture et de lecteurs dès le début d'année.
Ouais.
C'est vraiment primordial, ça nous apprend à créer du lien avec les élèves à travers ce qu'ils aiment, à travers ce qu'ils disent de leur lecture, pardon. Et puis, on a en classe un carnet de lecture.
Ouais.
Et ça permet à chaque élève de pouvoir noter, de prendre des idées de lecture à venir.
Ah, c'est intéressant, cette communauté de lecteurs. Ben, merci, Cécile. Léon, on a un extrait de ta lecture au Salon du Livre de Montréal. C'est le tout, tout début. On t'écoute.
Alors, bonjour, je m'appelle Léon. Je vais vous lire un extrait de Capharnaüm, un livre québécois écrit par Pénélope Bourque. J'ai choisi ce livre parce que, en fait, j'ai participé à l'écriture. Le premier chapitre que je vais vous lire va vous faire comprendre un gros secret que Anne, le personnage principal, garde profondément caché. Chapitre 1, Marguerite. Je marche dans la rue et je ne vois pas qu'il y a quelqu'un d'autre, juste là, devant moi. Je suis bien trop occupée pour me soucier de la présence de qui que ce soit. Je suis à la recherche du trésor dévorable du jour. Le trésor dévorable, ce n'est pas moi qui le mange en passant. Ce n'est même pas vraiment de la nourriture, en fait. C'est un objet. Mais je vous en reparlerai plus tard. Donc je suis là, à chercher ce dont j'ai besoin pour rentrer chez moi, le regard rivé au sol, quand tout à coup, une fille surgit devant moi. Un pas de plus et je lui fonçais dessus. Surprise, je m'exclame. « Hey, qu'est-ce que tu fais là ?»« Salut !» J'ai failli te marcher sur les pieds. « C'est pas grave, » me répond-elle, sans sembler le moindrement troublé. On reste comme ça, face à face, à se scruter des yeux. Qui est-elle? Je ne l'ai jamais vue. Pourquoi est-elle venue me parler? J'ai autre chose à faire, moi. J'habite ici en passant, me lance-t-elle, pour mettre fin à notre échange de regards silencieux. Elle pointe la maison voisine de la mienne. On vient juste d'arriver ce matin. J'étais en train de placer mes jouets dans ma chambre, et là, je t'ai vue sur le trottoir. Des boîtes dépliées sont empilées sur le terrain devant chez elle. J'étais tellement concentrée sur ma quête que je n'avais même pas remarqué que de nouveaux voisins emménageaient juste à côté. Elle me fait un grand sourire. Je n'ai pas le temps de convaincre les muscles de mon visage d'imiter son geste et qu'elle me relance. À quoi tu joues? Elle attend que je réponde quelque chose. Mais je ne sais pas ce que je pourrais bien lui dire. Ce n'est pas un jeu. Pendant un instant, mon cœur s'affole dans mon poitrine. Je ne vais quand même pas lui parler de ma recherche de trésors dévorables. Elle ne comprendrait rien. Et je n'ai pas de mensonge tout préparé à lui sortir. Ça fait déjà beaucoup trop de secondes que je la regarde sans rien dire. Heureusement, ça semble pas trop la déranger parce qu'elle poursuit. Ben, c'est ça. Je m'appelle Marguerite, puis j'ai 11 ans. Exactement comme moi.
Bravo, Léon. Bravo pour ton assurance, ton aplomb, ta belle voix qui porte pour la prononciation juste et l'intérêt que tu suscites chez ceux et celles qui t'écoutent. Moi, j'ai plein de questions. On va rappeler ce que tu as lu, c'est Capharnaüm de Pénélope Bourque aux éditions Fides. Tu dis, Léon, au début de ton intervention que tu as choisi ce livre parce que tu as participé à son écriture. Comment ça? De quelle manière?
Eh bien, en fait, Pénélope Bourque, c'est une amie de ma mère.
Oh!
Donc, quand elle a écrit le manuscrit, elle l'a donné à moi et à ma mère.
Ouais.
On l'a lu comme premier lecteur.
Ouais.
Puis elle est venue chez nous, puis on a donné des commentaires.
Oh, la chance!
Des moyens d'éclaircir quelques détails qui étaient obscurs. Puis ça a aidé à améliorer le livre.
C'est formidable. Ben bravo. C'est vraiment une belle chance, hein? Véronique, justement, vous êtes la mère de Léon. Qu'est-ce que vous pensez que ce grand jeu de lecture à voix haute apporte aux jeunes qui y participent?
Mais j'aime beaucoup quand Mme Cécile dit la communauté de lecteurs et de lectrices. Je pense que c'était ça qui était vraiment très beau à voir au Salon du livre. C'est tous ces jeunes rassemblés avec derrière leurs idées, leur tête, leur imaginaire, des livres, des mots.
Ouais.
Et aussi, c'était vraiment très convivial. Tout le monde était là pour se soutenir, pour écouter, découvrir des auteurs, des autrices.
Mm-hmm.
Je pense que ça, c'est primordial. Ça peut changer le cours d'une jeune vie, je pense, lire un livre très marquant.
C'est
donc,
très précieux.
Voilà. Oui.
Et de quelle façon avez-vous soutenu Léon?
Bien, Léon, c'est un grand lecteur, là, donc très passionné, toujours le nez dans un livre.
Il n'a pas trop besoin d'être soutenu, dans le fond.
Exactement. Donc, on a lu à haute voix, nous, depuis qu'il est tout petit. On a lu les Harry Potter, les Amos d'Aragon. On a vraiment été dans ça. Donc, maintenant, il fait, lui, avec son petit frère.
Ah oui!
Il fait de la lecture à haute voix. Donc, on l'a accompagné, on lui a dit répète autant que possible, lis-nous ça à la maison pour te sentir le plus près possible. Puis oui, vraiment, il a bien fait ça.
Il a vraiment bien fait ça, tout à fait. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce livre, Capharnaüm? Parce qu'on a compris qu'il y a la narratrice qui raconte sa rencontre avec Marguerite, qui s'appelle Marguerite comme la fleur, finalement. Pas comme l'accessoire de cuisine, là. Et après ça, c'est quoi cette histoire de dévoreur?
Donc, en fait, c'est Anne qui vit dans une maison qui mange des objets.
Oh, oh!
Donc, en fait, sa quête de trésors dévorables, c'est qu'elle doit chercher des objets pour les rapporter à sa maison.
Oui.
Puis qu'elle les mange.
Que la maison les mange.
Oui.
OK. Puis est-ce que c'est une histoire qui finit bien?
Oui.
Oui? Quand même? Et tu recommanderais cette lecture-là à qui comme lecteur?
Bien, je recommanderais cette lecture-là à des lecteurs qui peut-être qui sont pas trop habitués à lire des gros romans. C'est assez léger.
OK.
Mais même pour les adultes, il y a beaucoup de sous-entendus qui sont plus durs à comprendre quand tu es jeune, mais qu'avec l'âge, tu peux comprendre.
C'est super. Alors, on retrouve Léon Racine avec nous. Rebonjour, Léon. On a les deux Léons en studio actuellement. Moi, j'aimerais savoir, chacun votre tour, vous avez vécu l'expérience, toi, Léon, à l'école Saint-Pierre-Claver, Léon, à l'école des petits chanteurs du Mont-Royal. Qu'est-ce que vous diriez que vous retenez de cette expérience-là? C'est quoi votre souvenir le plus marquant? On va commencer avec Léon Racine.
Donc, comme un souvenir, c'est comme moi, dans ma classe, devant les autres, stressée. Car en fait, ça fait 3 ans que j'ai le même livre et je participe à des... Cette année, c'est la 3e et je participe à des concours de lecture. La première année, j'étais en 3e place dans ma classe.
Ouais.
La 2e, 2e. Et cette fois, bon...
C'était la bonne.
Oui, voilà. Donc, je me dis, c'était mon jour de gloire.
Au salon ou dans ta classe?
Dans ma classe.
Dans ta classe.
L'heure de vérité.
Oui, 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 c'est ça. Alors, c'est ton souvenir le plus précieux.
Oui.
Puis ça te réconforte, ça, hein?
Ouais.
C'est bon d'avoir toute la classe derrière soi. Ouais. C'est bon.
En fait, il y en a peut-être un autre qui est un peu plus récent.
Oui.
Quand j'ai serré la main au directeur du Salon du Livre.
À Olivier Goujon.
Oui, il y a à peine 30 minutes de cela.
Ben oui, c'est ça, hein? Fait que c'est tout un honneur.
Oui.
Quand même. On va transmettre ça à Olivier qui a dû nous quitter maintenant. Puis toi, Léon Trudeau-Ferrin, qu'est-ce que c'est ton souvenir le plus marquant de cette expérience-là?
Bien, quand j'ai commencé, juste avant ma lecture.
Oui.
Quand mes amis
Au salon, oui.
Quand mes amis m'ont soutenue, quand mon nom a été dit,
oui.
Je trouvais ça réconfortant de savoir qu'ils étaient avec moi,
oui.
Puis qu'ils me soutenaient. Puis ça a fait un peu disparaître le petit stress que j'aurais pu accumuler en attendant.
Oui, hein?
Puis ça a fait que j'étais plus à l'aise dans ma lecture.
Parce que tu avais tous tes amis derrière toi, comme un groupe qui te portait.
Oui.
Oui, hein? Ça fait disparaître le stress, ça.
Oui, vraiment.
Est-ce que vous avez, autant dans la classe qu'au Salon du livre, est-ce que vous avez utilisé le même livre et le même extrait?
Oui.
Oui, pour Léon Trudeau-Ferrin, puis toi, Léon Racine aussi?
100
% 100 toujours le même.
Oui.
Parce que quand on participe à la lecture, au défi « Lis avec moi », qui est offert aux élèves du deuxième cycle, les étapes sont différentes. D'abord dans la classe, ensuite dans l'école, ensuite dans le centre de service scolaire. Et à chaque fois, il faut choisir soit un livre différent ou un extrait différent. Alors, ça demande une préparation à chaque fois. Vous autres, vous avez pu peaufiner, préparer et vous pratiquer à chaque fois, c'est ça?
Oui.
Léon Trudeau, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait participer encore une fois à ce grand défi, ce grand jeu de lecture à voix haute?
Bien, je dirais que c'est important de travailler.
Important de travailler. Travailler comment?
Dans le sens de répéter,
ouais.
De mettre de l'énergie là-dedans, mm-hmm. De faire beaucoup d'efforts pour réussir,
ouais.
Puis de vouloir quand même réussir.
Ouais.
Si tu es un peu désintéressé, ça ne marchera pas.
Non, effectivement. Il faut que tu y mettes l'énergie.
Exact.
Puis quand on choisit l'extrait, comment on fait pour choisir un bout du livre plutôt qu'un autre bout du livre? Comment t'as fait, toi, Léon Racine?
Donc, moi, comme je le disais, c'était il y a 3 ans de cela.
Oui.
Bien évidemment. Donc, en fait, comme j'avais lu le livre, car je n'avais pas lu depuis que je l'avais acheté, c'est comme, ouais, cool, c'est un livre, mais bon, je n'ai pas lu. Donc là, j'ai commencé à le lire, car je trouvais que c'était un bon livre.
Puis l'extrait en particulier... Cet extrait-là, comment t'as fait pour le choisir?
En fait, c'était comme j'hésitais entre plusieurs extraits.
Ouais.
Et c'est un truc un peu humoristique avec beaucoup d'intonation.
Ouais.
Et quand j'ai appris qu'on pouvait pas mettre un passage documentaire ou quoi que ce soit, au départ, j'avais un passage sur la dune du Pila.
Alors, t'as laissé faire, ce
ouais,
coup-là.
Ouais.
On va laisser la parole à l'autre Léon, toi, cet extrait-là.
Eh bien, moi, je choisis mes extraits. Faut que ceux qui vont m'entendre, ce soit pas un extrait qui vont rien comprendre.
OK.
Fait que j'ai choisi généralement dans le début.
Parce que ça les met en contexte.
Ça les met en contexte.
C'est super.
Ils commencent à comprendre l'histoire.
Ah, bien, et d'abord, à vous deux. D'abord, Léon Trudeau-Ferrin, bonne fin de 6e année.
Merci.
Grand merci à vous aussi, Cécile Pierrard, qui est à distance. Au revoir, Cécile. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci Véronique Bossé.
Merci à vous.
Et merci à Léon Racine, encore une fois. Merci à ton enseignante, Hélène Moreau. Et je voudrais souligner aussi l'implication de Brigitte Boiteau et Radia Chériaf, qui sont toutes les deux bibliothécaires au CSSDM. Et je remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce grand jeu de lecture à voix haute du Salon du Livre de Montréal. On remercie Olivier Goujon aussi. Et puis voilà!
Je m'appelle Zen 2, j'ai 11 ans, j'aime me faire raconter des histoires parce que certaines histoires me captivent.
Restez avec nous. Après cette courte pause, je reçois l'illustrateur et musicien Enzo Laure Mariano. Mélissa Durand de la librairie Monet présente ses coups de cœur de libraire et il y aura des actualités littéraires. À tout de suite! Bienvenue à cette seconde partie d'Images et mots à voix haute. Dans les coulisses du livre, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Je reçois maintenant avec grand plaisir l'illustrateur et musicien Enzo Laure Mariano. Bonjour Enzo.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien. Et vous-même?
Ça va très bien. Merci de me recevoir.
Oh, c'est vrai, je l'ai dit, je le répète, c'est un grand plaisir. Bienvenue à Images et mots à voix haute. Je vais vous présenter, si vous voulez, en débutant aux auditeurs et aux auditrices. Vous êtes né au Québec.
Montréal.
N'est-ce pas? À Montréal.
Ouais.
D'une mère d'origine italienne. Vos grands-parents sont arrivés au pays dans les années 60. Et d'un père qui vient d'Abitibi. Vous avez du plaisir à dessiner au crayon dès la petite enfance à 4 ans. À plusieurs endroits dans votre bio, c'est mentionné que vous avez dessiné des homards à la tonne avant de réaliser tout ce qui vous était possible d'illustrer. Pourquoi des homards?
J'ai aucune idée. C'est le genre de fixation qu'on a inexplicable. Je sais que quand j'étais jeune, j'ai toujours aimé les choses qui avaient des pinces.
Okay.
Donc, tous les crabes, les homards, tous les insectes qui avaient des pinces, et même, tu sais, il y avait des pépines avec des pinces. Là.
Oui, oui, oui.
J'adorais les choses avec des pinces. Je sais pas pourquoi.
Une fascination pour les pinces.
Ouais, puis là, à un moment donné, j'étais trop jeune pour m'en souvenir, mais je sais que, genre, je les ai vus, ce dessin-là. Là. C'est des homards à n'en plus finir. J'en ai dessiné. C'était la première. Avant de faire des homards, je faisais des feux d'artifice, tu sais.
Okay.
Donc là, c'est la première chose que je faisais qu'on
vivant.
Pouvait reconnaître.
Ouais, ouais, ouais. C'est drôle, c'est très drôle. Au secondaire, vous avez fréquenté l'école FACE à Montréal. C'est une école qui intègre les arts et la musique au cursus scolaire. Qu'est-ce que vous retenez de ces années?
Wow, c'est rare. Pour vrai, j'ai la chance d'avoir beaucoup, beaucoup aimé mon école secondaire. C'était une grande famille.
Oui.
Déjà, ça, c'était quelque chose qui était... C'était absolument magique. Puis, c'est ça, ben moi, quand je suis rentré à FACE, c'était vraiment les arts visuels qui m'intéressaient.
OK.
Puis, l'intérêt de cette école-là, c'est qu'on fait tous les arts. On fait les arts visuels, on fait le théâtre, on fait la musique, on fait le chant choral, on fait tout ça. Et, ben c'est cette école-là, c'est à travers cette école-là que j'ai découvert la musique.
Aussi?
Ouais.
Oui.
Ouais, alors, moi, j'étais déjà... Moi, dans ma tête, quand je suis rentré à FACE, je savais que je voulais être artiste visuel.
Okay.
Je savais. Puis là... sans faire exprès, la musique est rentrée dans ma vie grâce à cette école-là.
Le chant, en fait, c'est le chant choral.
Ouais, il y a le chant choral. On a fait du chant choral. J'ai aussi joué 7 ans de tuba.
Ah oui, le tuba, c'est énorme instrument avant.
Ouais. Puis je crois que c'est vraiment l'effet. Qu'est-ce qui m'a beaucoup frappé dans la musique, c'était vraiment l'effet de le travail d'équipe, dans le choral ou dans une harmonie, dans un orchestre. On est 120.
Oui,
à faire partie d'un tout.
On construit quelque chose.
Oui, c'est ça. C'était quelque chose qui m'a vraiment... Je crois que c'est vraiment le côté humain que j'ai beaucoup aimé dans la musique. C'est le partage, la connexion, les cœurs qui battent. Nos cœurs, ils battent, ils finissent par tout battre en même temps, je pense. Je sais pas.
Mais c'est vrai, c'est une expérience qui est très particulière. Uh-huh. Longue vie à FACE.
Ouais.
Moi, j'ai lu dans un texte sur vous que votre mère était costumière sorcière et votre père directeur photo bûcheron dans l'âme.
Ouais.
D'abord, on voudrait des détails sur eux et on voudrait savoir ce que vos parents vous ont légué comme créateur.
Ouais, ben moi j'ai quelque chose qui était très fun pour moi comme enfant créatif, c'était que j'ai deux parents qui sont encore en fait dans le milieu du cinéma.
Okay.
Puis ma mère est costumière en cinéma et est spécialisée en armure et en extraterrestre. Et ça c'est son truc, tu sais. Puis et mon père directeur photo en cinéma aussi, mais lui il passait son temps les fêtes de semaine à bûcher du bois en campagne, puis il vient d'Abitibi aussi. Alors il doit avoir
un petit fond de bûcher.
Oui, ouais, c'est ça. Puis avoir grandi dans une famille avec deux parents artistes comme ça, ça a été quelque chose... Ben, le plus grand legs, je crois que c'est aucune question de... Je peux tout faire. C'est tout ce que j'ai envie de faire, je peux le faire. Okay. C'est toutes mes idées un peu folles.
Il y a cette ouverture, là.
Oui, il n'y avait jamais un mur. Il y avait... C'était toujours « Ah, j'ai envie de faire ce truc. » Ben oui,
faisons-le.
OK, faisons-le, on le fait. Puis...
C'est formidable.
Ouais, ouais.
Formidable. C'est au domaine forgé que vous avez découvert le jazz vocal. Mm-hmm. Ça vous a incité à entreprendre une technique en musique et vous êtes devenu mandoliniste professionnel. Vous avez même créé un programme de technique professionnelle en mandoline jazz au Cégep Saint-Laurent. Et vous avez adopté, j'espère que je le prononce bien, le bandolim comme instrument de prédilection. Qu'est-ce que c'est, cet instrument?
Le bandolim, en fait, c'est le mot mandoline, mais en portugais. Puis ça, c'est une mandoline de style brésilienne. Parce qu'une mandoline a 8 cordes, normalement, et celle-là a 10 cordes. Donc, elle a un jeu de cordes un peu plus grave, puis tout le corps est un peu plus rond, plus... C'est un...
Donc, c'est pas la même caisse de résonance.
Non, c'est ça. Une mandoline un peu plus enveloppante, je dirais.
OK.
Puis, quand j'ai découvert cet instrument-là, ça a changé ma vie.
Ah, oui. Entre la musique et l'illustration, qu'est-ce qui vous permet le plus de vous réaliser puis d'être heureux?
Ah, c'est c'est une question impossible à répondre, je pense. Mais en même temps, où la réponse facile, ce serait que c'est les deux vont tellement de pair. Ouais. Premièrement aussi, ces deux vies artistiques-là que j'ai me permettent vraiment d'être un peu le capitaine de mon horaire.
Ouais.
Donc, je peux vraiment, tu sais, j'ai beaucoup de liberté. Alors, tu sais, dernièrement, mettons, il y a beaucoup de mes collègues musiciens, musiciennes qui étaient pas en ville. Donc, okay. Je sais que cette semaine-là, ce mois-ci, c'était vraiment concentré sur l'illustration.
Mm-hmm.
Et là, je sais qu'il y a des périodes, OK, là, il va y avoir un enregistrement d'album ou des choses comme ça. Donc, là, je sais que ça va être plus la musique.
Mais les deux vous stimulent.
Oui, puis j'apprends beaucoup aussi des deux, d'ailleurs.
Okay.
Surtout pour la création, moi, j'ai des études en musique,
ouais.
Mais pas en art visuel. Donc, moi, j'ai beaucoup d'outils,
ouais.
En musique pour que je connais l'harmonie, je connais tout ça. Je sais quand je travaille sur une pièce, je sais si je trouve qu'il y a un problème dans l'arrangement, quelque chose, je sais exactement comment cibler. Et en dessin, ben, j'ai aucune théorie, j'ai aucune idée.
C'est l'instinct, alors.
Oui, c'est ça. Puis c'est deux trucs qui se nourrissent beaucoup. Tu sais,
oui,
c'est deux
oui,
trucs,
oui.
L'instinct, je peux le ramener dans la musique. Puis le côté plus réflexion de la musique, je peux l'amener plus dans le dessin.
J'aimerais ça, moi, si on prenait le temps d'écouter un court extrait de ce que vous faites en tandem, bandolim, guitare, avec votre collègue musicien Luca Melo, qui est arrivé du Brésil en 2012 et avec qui vous avez étudié. Je vous propose qu'on écoute un petit bout de, dites-moi si je prononce, Instancia.
Oui, Instancia, oui.
C'est tellement beau. Qu'est-ce que ça veut dire, instancia?
Instancia, c'est un mot portugais qui est... La traduction directe, c'est instance. Mais en français, instance, c'est pas la même chose. C'est vraiment plus par rapport au moment présent et la spontanéité. Et, parce que avec mon collègue Lucas Melo, on fait beaucoup d'improvisation.
Okay.
Donc, c'est toujours... Quand on joue, c'est vraiment... On est prêt à tout parce que... Tout peut arriver.
Oui, oui.
C'est la connexion au moment présent.
Et, c'est cette ouverture-là, encore une fois. Ouais. Vous évoquez dans cette musique une diversité de styles. Ça vogue entre les rythmes du Brésil, les couleurs de l'Europe, mm-hmm. la nordicité du Québec. Puis vous en parliez tout à l'heure, il y a 2 minutes, là, ou 30 secondes. C'est quoi la place de l'improvisation dans ce que vous faites musicalement?
Oui, bien, je crois que on a tous les deux étudié à Saint-Laurent, au Cégep Saint-Laurent,
ouais.
En jazz. Puis c'est en jazz, on apprend à improviser.
Ouais.
Puis c'est vraiment... L'improvisation, c'est vraiment, en fait... ce que je suis en train de faire en ce moment, j'improvise.
C'est ça, hein?
Comment je vous parle, j'improvise, j'ai un vocabulaire.
Ouais.
Et j'ai une idée de qu'est-ce que je veux dire, mais... Je sais pas comment je vais le dire, donc j'improvise.
Puis on est deux.
Oui, puis on est deux en plus.
C'est ça.
Là, c'est une conversation et ouais. C'est vraiment ça l'intérêt avec Lucas. On a vraiment une belle complicité. C'est pas avec tout le monde des fous qu'on la trouve cette complicité là. Puis là, on mélange vraiment arrangements très précis à des sections très ouvertes.
Ouais.
Puis c'est ça. En fait, nos pièces, la plupart du temps, c'est des véhicules pour improviser.
Mm-hmm.
C'est vraiment des sujets de conversation.
C'est vraiment très intéressant. Vous avez illustré plus d'une quinzaine d'albums. Depuis une dizaine d'années. Je vais en citer quelques-uns, mm-hmm. si vous voulez. Chez Planète Rebelle, notamment, Les aventures de Sam, de Philippe Garon, inspiré des contes et légendes de Gaspésie. À la courte échelle, Sommet des soleils, d'André Poulain. Chez Québec Amérique, de la même autrice, Il n'y a pas de place chez nous, et Tache d'huile, mm-hmm. aussi, de Jonathan Bécotte. Chez Deux, La porte A4, de Naomi Shihab Ni. La souffleuse, de Larry Tremblay. Le vélo de Sergio, de Marie-Bette
Bolch,
merci. Chez Fonfon, de Pierrette Dubé, un rhume de cheval qui était en lice au prix littéraire du gouverneur général en 2022, puis a gagné le prix Philippe Béat. Mm-hmm. l'illustrateur, hein, vraiment, quel illustrateur en 2023. Ouais. Félicitations. C'est tous des albums variés, différents les uns des autres. Dans certains, les sujets abordés sont très durs pour les enfants. Je pense que c'est troublant. La guerre dans mm-hmm. Semer des soleils, il n'y a pas de place chez nous. Et aussi, ces deux livres-là abordent le thème de la guerre. Le très, très touchant, La porte A4. Mm-hmm. Ou encore le cauchemar terrible dans La souffleuse. Comment vous faites pour illustrer aussi habilement et délicatement des sujets aussi terribles, sans tomber dans la laideur ou dans l'horrible? Moi, je pense au le rêve de la souffleuse, là, c'est des flocons qui tombent. Elle va les ramasser, la souffleuse, elle panique en pensant à ça. C'est lui, ben oui, qui a fait ça. C'est fou d'anticiper ce qui pourrait arriver. Comment vous faites?
Ouais, puis d'ailleurs, ben, ces flocons-là, pour ceux qui ne connaissent pas ce livre-là, c'est des petits-enfants. C'est des enfants qui tombent du ciel. Ouais,
ça n'a pas de sens. Ouais.
Tellement bonne question, j'ai aucune idée. Comme... ben aussi, c'est drôle. J'ai beaucoup fait de projets à caractère un peu plus sérieux ou plus dramatique. J'ai aucune idée pourquoi. Je crois que j'ai peut-être un trait qui peut adoucir certaines choses.
Oui, puis il y a de la légèreté.
Il y a de la légèreté, je pense. Oui, puis je sais, surtout les projets qui parlent vraiment de guerre, je sais qu'une stratégie qui est importante pour moi, c'est de ne pas aller dans la surdramatisation de la scène. Je pense que souvent, c'est...
C'est évoquer,
oui, c'est
ça. Montrer,
oui,
c'est ça.
Oui, être dans l'évocation. Puis aussi dans l'émotion du personnage. Ouais. Je pense que l'émotion du personnage est plus forte qu'une scène très graphique et sanglante.
C'est drôle parce que je parlais avec Jocelyn Boisvert dans une autre entrevue avec qui vous avez travaillé. Vous avez fait ensemble le livre Aspirateur. Et puis lui, il disait qu'il évoquait l'horreur plus que de la montrer. C'est le livre Aspirateur, c'est le premier de la série La Bibliothèque Enchantée chez Michel Quintin. C'est illustré très brillamment. C'était quoi le défi dans l'illustration de ce livre-là?
C'était tout un défi. Parce qu'en fait, ce livre-là, c'est l'histoire d'une petite fille qui se fait aspirer par le livre et elle reste prise dans le livre. Et là, elle essaie de s'enfuir de ce livre-là pendant toute l'histoire. Et des fois, elle fait un trou. À un moment donné, elle fait un trou dans une page pour aller d'une page à une autre. Il y a plein d'effets spéciaux. Il y a un dragon dans l'histoire qui crache du feu.
Ben oui, donc il y a du feu et du papier, ça va pas bien.
Non, exactement, il met le feu, il met le livre en feu. Alors, tous ces effets spéciaux-là, c'était, je crois, le plus grand défi de ce projet-là. Mais c'était aussi super excitant. En fait, moi, quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans l'illustration, c'est qu'à chaque nouveau projet, je me pète la gueule. Puis c'est comme ça que j'apprends. C'est comme ça que...
Et vous avez fait un projet vous-même, vous avez écrit, illustré la BD « Ça sent le swing ». Swing dans le sens de musical, pas dans le sens de l'odeur.
Moi, je dirais un mélange des deux, peut-être.
C'est édité à la bagnole. Pourquoi vous avez voulu écrire vous-même ce livre-là?
Ben, ce livre-là, c'est justement ça ramène un peu à ma vie de musique. C'est une histoire un peu autobiographique
de tournée de
mon groupe de musique. Puis ça fait là, on a tourné en Gaspésie à travers la Gaspésie aux îles de la Madeleine et tout ça. Et c'était quelque chose c'était un mode de vie que je voulais vraiment raconter. Il y a plein de drôles d'anecdotes qui arrivent. Évidemment,
c'est très drôle.
Puis aussi, pour ce livre-là, je voulais parler un peu de théorie musicale, mais aussi...
Présenter des instruments.
Exactement.
Notamment.
Un peu expliquer comment ça marche, parce que c'était un groupe où on faisait du swing, du jazz, beaucoup, encore une fois avec de l'improvisation. Et je voulais un peu expliquer aux gens qui ne savent pas c'est quoi cet univers-là ou c'est quoi l'improvisation. Je voulais un peu vulgariser c'est quoi...
C'est très bien. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Enzo, c'est la tradition à Image et moi. On demande aux gens, aux invités, de nous proposer un de leurs coups de cœur littéraire jeunesse.
Ah, oui,
est-ce que vous avez pensé à une suggestion.
Oui, je l'ai amené. C'était très difficile. Hein?
Je le sais.
Puis, c'est ça, je crois que j'en ai un nouveau préféré à chaque mois.
Ben oui.
Mais celui-là, puis je lis juste la version en anglais, mais c'est un livre de Felicita Sala, puis le livre, c'est « If You Run Out of Words ». Il a été traduit et publié à la Pastèque.
OK.
C'est si tu... Attends, je l'ai même ici...
On va le trouver.
On va le trouver, oui.
On va le trouver.
Puis c'est l'histoire... Ben, premièrement, Félicita Sala, c'est une illustratrice que j'admire tellement. C'est une, elle illustre tellement bien. Puis là, c'est elle qui a écrit le texte. Et c'est l'histoire d'un papa qui... Et d'un papa et sa fille. Et le papa est beaucoup sur son téléphone, il écrit beaucoup de textos. Et sa petite fille lui demande... est-ce qu'un jour, tu vas manquer de mots pour moi? Et là, puis il lui pose des questions. Elle lui pose des questions comme qu'est-ce qui arrive si tu manques des mots? Non, puis là, il trouve des scénarios un peu farfelus. Il dit, non, je vais aller chercher des mots chez les lutins.
Ouais, il trouve des solutions.
Et à la fin, ce livre est magnifique
jusqu'à la dernière.
Oui.
Alors nous, c'est pas de mots qu'on manque, Enzo, c'est de temps.
Je voudrais
vous remercier pour la beauté que vous nous proposez en images et en musique. Merci pour les yeux du petit garçon qui ne voulait pas grandir, que vous portez encore sur les choses de la vie, les plus farfelues comme les plus tendres et les plus graves. Au plaisir de vous lire, de voir vos œuvres et de vous entendre encore, Enzo.
Merci beaucoup.
La chronique coup de cœur des libraires.
Aujourd'hui, c'est Mélissa Durand, libraire jeunesse à la librairie Monet, qui nous présente ses coups de cœur. Bonjour, Mélissa.
Bonjour, Marie. Merci de m'accueillir.
Plaisir. Mélissa, vous êtes libraire depuis 7 ans et en section jeunesse chez Monet depuis 4 ans. Aujourd'hui, vous nous faites découvrir vos coups de cœur, comme d'habitude, des livres qui se démarquent. On vous écoute.
Parfait. Alors, je vais y aller tout de suite avec le premier de mes coups de cœur, Le jardin de Monsieur Kuroki, qui vient de nous arriver en librairie. C'est une histoire vraie, celle d'un grand amour entre deux personnes japonaises, un monsieur et une madame, qui va littéralement créer un jardin pour son épouse qui est atteinte de cécité dans le but de faire venir des gens pour la rencontrer, elle qui a toujours rêvé de faire un grand voyage. Donc, c'est de toute beauté, une belle histoire. Je vous invite à aller voir les images aussi sur Internet.
C'est très beau, puis c'est tout à fait en lien avec le public de Canal M. Particulièrement, c'est une réalité qui touche beaucoup ces gens-là. Je merci beaucoup pour cette suggestion, Mélissa.
Merci à vous. Donc, le second, c'est voter pour le pire, très actuel parce qu'on a un président qui ressemble un petit peu à ça de l'autre bord de la frontière.
Oui, qui est pas mal le pire, on pourrait dire ça.
Oui, donc, voter pour le pire, c'est l'histoire d'un petit dictateur qui va nous convaincre à toutes ses sauces qu'il doit être le grand chef, il veut devenir le boss, mais on le voit que c'est quelqu'un de profondément ignorant et de très arrogant. Et heureusement pour nous, il va pas réussir à nous convaincre à force de toujours se tromper.
Intéressant, c'est que c'est son nom, le pire. C'est en un seul mot, le pire.
Ah, le pire, oui, c'est son nom de famille. Donc, vraiment très drôle aussi.
Oui.
Le troisième, en fait, c'est pour les plus vieux. Donc, celui-là, je voulais absolument vous le présenter parce que c'est vraiment un ovni parmi la littérature jeunesse. Il s'agit d'un album d'épouvante polonais dans lequel il y a 15 histoires de fruits et légumes qui vont être apprêtés par des humains, mais mettez-leur des sentiments et des émotions et ça prend un tout autre tournant. C'est formidable, les illustrations sont absolument merveilleuses. C'est sûr que faut le prendre comme si c'est une histoire d'horreur, mais ça permet aussi de développer l'empathie. Et ultimement, on va voir qu'à la fin, il y a la revanche d'un légume en particulier, le piment, qui est particulièrement épicé et qui, lui, va nous en faire voir de toutes les couleurs. Mais je vous invite à le voir, il est absolument magnifique. C'est un de mes livres préférés.
Qu'est-ce que c'est le titre de ce livre-là?
Le supplice de la banane. Pardon, je crois que j'ai oublié de le dire. Le supplice de la banane aux éditions Albin Michel. Allez voir ça, c'est incroyable.
Excellent. Merci.
Le prochain s'appelle « Ça m'est bien égal » de la maison Le Génivrier, qui est un album que je trouve formidable pour parler de relations. Donc, c'est l'histoire de deux petites filles qui, au début, nous disent « Je me fous de la couleur de ta robe, je me fous que ton père ait une moustache. » Par contre, c'est important pour moi tes émotions, c'est important pour moi tes opinions. Je vis les émotions comme tu les vis. Je veux être là pour toi. Ce que ça parle, c'est à quel point dans les relations, il y a des choses qui sont de l'ordre du superficiel et d'autres qui sont de l'ordre du relationnel. Donc, dans une histoire très simple, on vient de vous dire, c'est quoi une relation saine? À l'heure des relations toxiques en ce moment en littérature, je vous dis que ça, c'est un très bon thème.
Oui, puis l'histoire des deux illustratrices est intéressante aussi parce qu'elles ont illustré à deux, c'est ça.
Exactement, c'est deux amies qui l'ont co-illustré, ouais. Donc ça rend le tout encore plus particulier, donc c'est formidable.
Ouais.
Donc je vous invite à aller le voir. Et le petit dernier s'appelle « Si j'avais su », c'est un album québécois de la maison 400 coups qui va nous donner moult petits animaux dans un état passablement amoché, on va dire. Et en fait, vous allez toujours avoir l'image du après, avant le avant, et vous allez découvrir ben, pourquoi ces animaux-là sont dans cet état-là. Et ben s'ils avaient su, ils auraient écouté leur mère, ils auraient écouté les consignes, ils auraient concerté leur instinct. Donc oui, Si j'avais su, qui est un très bel album et très drôle sur l'art de, ben c'est ça, des fois ça vaut la peine d'écouter sa petite voix intérieure et suivre les règles.
Tout à fait, puis ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est un livre qui est écrit et illustré par Geneviève Després. Geneviève Després, elle n'écrit pas souvent. Et ça, c'est vraiment un livre de son cru à elle. Et il y a tout son humour là-dedans, tout son sens de la répartie. C'est vraiment très, très bien construit. C'est très drôle.
Oui, puis on retrouve d'ailleurs le cachet des animaux dans l'album le 24 décembre, exact. Si jamais vous l'allez voir, qui était très beau lui aussi, qui était de sa main également.
Tout à fait. En fait, le livre de Noël, le 24 décembre, a été illustré par Geneviève et écrit par son fils.
En effet. Oui, c'est encore un de mes albums préférés pour Noël, d'ailleurs. Il est très, très beau.
Oh, je m'en lasse pas. Il revient à Marie raconte régulièrement celui-là parce qu'on l'a déjà lu. Merci beaucoup. Merci, Mélissa. Sur le site de l'émission, on va retrouver les liens vers les titres que vous avez mentionnés, que vous nous proposez. Au grand plaisir d'une prochaine fois. Merci.
Merci de m'avoir accueilli. Portez-vous bien. Au revoir.
Merci. D'autres idées de lecture et de sortie littéraire. Sur le site de l'émission, on vous met tous les liens vers les événements et les activités mentionnées. Dimanche prochain, le 23 février, à Marie raconte, je lis « Lougin, rêve des tournesols » de Lina Al-Atloul et Uma Mishra Newberry, illustré par Rebecca Green, des éditions Les 400 coups. Chaque matin, Lougin se remémore son rêve de voler jusqu'au champ où pousse un million de tournesols. Elle a des ailes, mais là où elle vit, les filles n'ont pas la permission de voler. Cette histoire est inspirée par la vie réelle de Lougin Al-Atloul, candidate au prix Nobel de la paix, qui a milité avec succès pour changer les lois en Arabie saoudite, interdisant aux femmes de conduire des voitures. On en écoute un extrait. La maman de Lougin, en le voyant revenir, lui demande ce qui ne va pas. Maintenant, on est dans la maison, dans la cuisine. Les deux parents se font face devant la fenêtre. Tous les deux, ils croisent leurs bras sur leur poitrine en discutant sérieusement, attentifs l'un à l'autre. Le papa répond d'abord à la maman qui lui demande ce qui ne va pas. « Loulou veut voler », répondit-il. « Mais on sait bien qu'elle ne peut pas. Pas vraiment. » La maman de Lougin réfléchit quelques instants. Et si tout le monde a des ailes, pourquoi est-ce seulement les garçons qui peuvent s'en servir? Le baba de Lougin écoute. Si tu ne l'encourages pas, qui le fera? Demande sa maman. Tu dois croire que les choses vont changer, sinon elles ne changeront jamais. Le baba de Lougin regarde sa femme. Puis, retourne dans le jardin. Du jeudi 20 au dimanche 23 février a lieu la 46e édition du Salon du livre de l'Outaouais sous le thème « Tout est permis ». C'est au Palais des congrès de Gatineau, au 50 rue de Maisonneuve, secteur Hall. C'est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Du vendredi 28 février au dimanche 2 mars se tiendra le Salon du livre de Toronto à l'Université de l'Ontario français au 9 Lower Jarvis Street. Le thème de cette 32e édition est l'inclusion. Les finalistes pour le prix intercollégial de littérature jeunesse 2025 ont été dévoilés. Il s'agit de Dernière heure, la déconfiture du lièvre de Robert Soulière et Sans cravate, un récit humoristique et rythmé inspiré d'une fable de La Fontaine et des contes classiques. Mon papa punk par Iris Boudreau et Pascal Girard, un récit qui illustre avec candeur, fierté et un peu d'embarras le fait d'avoir un papa différent. Jamais trop tôt pour Arnaud par Liliane Boucher et Zoé Robertson, un album qui aborde la pensée de nature philosophique chez l'enfant. Le Mauvais coup par Daniel Chaperon et Mirabol, un album qui explore avec humour les méandres de l'imagination et des relations père-fille. L'arbre de Lily par Marie-Louise Gay, une fable écologique qui explore avec sensibilité la vie de quartier. L'album Lauréat de l'année sera développé en mai 2025. Ibi Canada a sélectionné 2 livres pour représenter le Canada dans la collection Silent Books, dont Il était une fois un oiseau, illustré par Nathalie Dion, publié en français aux éditions de Lysatis. Un comité international de juges annoncera la liste d'honneur de tous les titres soumis du monde entier à la prochaine foire du livre pour enfants à Bologne, en Italie, en avril. De plus, l'illustratrice José Bizarion est l'une des créateurs canadiens nominés pour les prix Hans Christian Andersen de 2026. Le lauréat sera connu en août prochain. À suivre! Soulignant en terminant aux éditions Station T Jeunesse, Sans retour d'Isabelle Trépanier, illustrée par Marie-Ève Turgeon. Jonah et Roméo ont le même âge mais ne sont pas jumeaux. Le hasard a voulu que Roméo arrive dans sa famille d'accueil le jour de la naissance de Jonah. Jonah est sourd, Roméo muet, mais tous les deux y se comprennent en silence. Un roman d'aventure étonnant. Voilà! C'est tout pour aujourd'hui. Je remercie les invités et les collaborateurs, Léon Racine et Léon Trudeau-Ferrin, lauréats du Grand Jus de lecture à voix haute du Salon du livre de Montréal 2024 et tous ceux et celles qui les ont soutenus et accompagnés, l'illustrateur Enzo Laure Mariano, Mélissa Durand de la librairie Monet, Michel Brûlé pour le soutien à la recherche, Mathieu Tessier en régie, au montage et à la mise en onde, et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Je vous souhaite des lectures captivantes et on se retrouve dans 2 semaines.